Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Deux ans après l'explosion du port de Beyrouth, la justice libanaise ordonne la saisie provisoire des biens de deux anciens ministres, aujourd'hui députés. En Tunisie, une cinquantaine de magistrats révoqués par le président Kais Saied ont obtenu gain de cause. La mesure a été suspendue par la justice. SOS Racisme diffuse la vidéo montrant des pratiques discriminatoires à l'entrée de plages privées du sud de la France. Entretien avec le président de l'association Dominique Sopo. Enfin, la canicule se poursuit en France avec 18 départements en vigilance orange et une trentaine en vigilance jaune. La France qui est préoccupée aussi par les incendies. Au Liban, la justice a ordonné la saisie temporaire des biens de deux députés soupçonnés d'être liés à l'explosion du port de Beyrouth il y a deux ans. Il s'agit de Ali Hassan Khalil et de Razi Zeiter, membres du parti Amal et anciens ministres des Finances et des Travaux publics et des Transports. La décision de la juge Naja Itani entre dans le cadre d'une plainte déposée par le barreau de Beyrouth. Pour interroger les deux députés, les deux hommes avaient déposé une vingtaine de plaintes contre le juge Tarek Bitar pour entraver l'enquête. La justice tunisienne autorise une cinquantaine de magistrats à reprendre leur travail. Le tribunal administratif de Tunis a suspendu leur révocation qui avait été décidée par le président Kais Saied le 1er juin. La révocation de ces magistrats avait été dénoncée par plusieurs ONG, dont Human Rights Watch et Amnesty International. En France, SOS Racisme a diffusé une vidéo tournée en caméra cachée où l'on voit des couples maghrébins et noirs se voir refuser l'accès à des plages privées alors qu'un couple blanc est accepté. Des testings qui ont eu lieu à Marseille et Juan-les-Pins. On écoute le président de SOS Racisme, Dominique Sopo.
Nous avons effectivement mené des opérations de testing sur le sud de la France, le pourtour méditerranéen, et notamment nous avons montré que les plages privées, pour une partie d'entre elles, pratiquaient la discrimination à l'entrée, ainsi évidemment que les bars de nuit et les discothèques dans des testings plus classiques et que nous menons depuis plus longtemps. Et ce que nous avons tout simplement montré, cette discrimination, c'est que selon qu'on était blanc, noir ou arabe, eh bien on n'était pas traité de la même façon, et que notamment les plages privées à Juan-les-Pins, puisque c'est notamment là que ça s'est déroulé, ainsi qu'une plage privée sur Marseille, refusaient soit les Noirs, et les Arabes, alors que les personnes blanches, elles, étaient acceptées sur les plages. Les testings, ils ont plusieurs fonctions. Il y a évidemment une fonction de pression par l'opinion publique, qui évidemment, à juste titre, est quand même largement scandalisée par ce type de comportement. Il a aussi une vertu pédagogique, de rappel de la loi, pour faire en sorte que les gens soit réfléchissent à leur pratique, soit se disent « attention, peut-être que le coup d'après, ça va me tomber dessus et ce sera moi qui risque d'avoir des ennuis, puisque il y aura des suites judiciaires, évidemment, à ce testing pour les plages qui se sont rendues coupables de discrimination. » Mais de façon plus fondamentale, je pense que ce que nous attendons, c'est que les pouvoirs publics soient au rendez-vous et mettre un terme à ces pratiques qui, de fait, sont très largement tolérées dans notre pays. Le fait que des boîtes de nuit encore aujourd'hui ou des bars, le fait que des plages privées puissent se permettre ce genre de comportement, c'est parce qu'il y a une défaillance évidente de la réponse des pouvoirs publics, que ce soit la justice qui condamne extrêmement peu ou que ce soit les préfectures qui ne sont pas au rendez-vous lorsque de tels faits sont dénoncés. Quand on parle de plage privée, on parle du domaine public de l'État. On parle de professionnels qui ont obtenu des concessions auprès des préfectures. Donc que font les préfectures lorsque on leur dit, on leur montre, parce que c'est filmé, qu'il y a des filtres, qu'il y a des sélections sur une base ethnique par ailleurs, qui sont pratiquées à l'entrée des plages privées. Est-ce que les préfectures vont supprimer les concessions, vont les revoir? Est-ce qu'elles vont convoquer les professionnels de ce secteur? C'est encore une fois au pouvoir public, j'allais dire, de rappeler ce qu'est la loi. On est dans un état de droit et la loi, elle doit être appliquée de façon pleine et entière, sans que l'on soit obligé, normalement, de recourir à ce type d'opération.
Qu'est-ce que vous allez demander précisément à la ministre déléguée en charge de la diversité et de l'égalité des chances, Isabelle Rome, que vous allez rencontrer à la rentrée?
Oui, alors j'ai déjà rencontré Isabelle Rome il y a quelques semaines. Hein, on a parlé de la question des discriminations. J'en ai parlé aussi avec Olivier Klein, le ministre de la Ville et du Logement. Ce que nous allons leur demander, puisqu'il y a un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les haines anti-LGBT qui va être élaboré dans les semaines qui viennent, c'est que, en matière de discrimination, il y ait dans la loi des clauses qui permettent de taper fortement ceux qui sont les auteurs de discrimination. Parce que le problème des discriminations, c'est que ça n'est pas des délits comme les autres. En général, vous ne savez pas que vous avez été victime de discrimination. Quand vous vous faites voler votre voiture, vous savez que vous avez fait voler votre voiture. Lorsque vous êtes discriminé, bien souvent, vous ne le savez pas, vous n'en avez pas la preuve, c'est plutôt une forme de sentiment, mais par rapport auquel vous êtes assez démuni. C'est pour ça qu'il y a une action spécifique à mener par rapport à celles et ceux qui sont en situation de discriminer avec des peines beaucoup plus fortes. Et le deuxième élément, c'est de faire en sorte que l'État, à travers la puissance administrative qui soit la sienne, utilise tous les outils à sa disposition pour mettre un terme à ces pratiques. Comment se fait-il que des boîtes de nuit, que des bars, que des plages privées puissent se permettre de filtrer leur clientèle? Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, elles ne risquent pas grand-chose. Imaginez, prenez un cinéma. Quand vous arrivez au cinéma, comment dire, tant qu'il y a des places, on vous laisse rentrer. Il n'y a aucune sélection à l'entrée dans un cinéma, sauf qu'il y a une limite d'âge posée par le film. Et il ne viendrait à l'esprit, sans doute, d'aucun professionnel du cinéma de filtrer la clientèle à l'entrée de son cinéma. Pourquoi ce serait possible sur les plages privées, dans les bars et dans les boîtes de nuit notamment, et quasiment au vu et au su de tout le monde? C'est parce que ces professionnels savent que de toute façon, il y a une forme d'acceptation de ces pratiques. Eh bien, c'est aussi à cela qu'il faut mettre un terme.
Est-ce que vous encouragez les employés de ces établissements à témoigner contre leur patron? Est-ce qu'ils peuvent être considérés d'une certaine façon comme des lanceurs d'alerte?
De toute façon, les employés de ces établissements, s'ils témoignent de pratiques discriminatoires qui sont des pratiques illégales, évidemment, de toute façon, seront protégés du fait qu'ils dénoncent une illégalité, puisqu'un patron n'a pas le droit, évidemment, de demander à ses employés de commettre des actes illégaux. Et je ferai remarquer que de façon plus générale, au-delà de la question de est-ce qu'il y a discrimination raciale ou pas, le simple fait de ne pas vendre un service à des personnes qui viennent pour l'acheter constitue un délit, ça s'appelle un refus de vente, quand bien même ce serait sur un autre critère que le critère de l'origine ethnique. On n'a pas le droit, lorsqu'on est un professionnel et qu'on offre un service, de sélectionner la clientèle. C'est comme ça, c'est la loi, et bien cette loi doit être appliquée, et évidemment, les employés qui travaillent dans des établissements et dans lesquels on leur demande de faire de la sélection de clientèle telle que cela se voit dans trop de lieux, et bien doivent témoigner, parce que évidemment c'est aussi le silence, c'est aussi l'absence de témoignage qui permet et bien au patron à compter sur finalement l'omerta afin de pouvoir poursuivre des pratiques qui sont quand même totalement honteuses en 2022.
Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. En Syrie, un chef du groupe État islamique est mort après avoir déclenché sa ceinture d'explosifs. Il était blessé et encerclé par les forces syriennes. Information donnée par l'agence officielle Sana, les faits se sont déroulés dans l'ouest de la région de Deraa. L'Iran a réagi aux affirmations de la justice américaine sur un complot dirigé par un membre des gardiens de la Révolution pour assassiner John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. Pour Téhéran, de telles accusations sont ridicules et sans fondement. Pour l'Iran, les autorités judiciaires américaines ont porté des accusations sans fournir de preuves valables. Le chef de la junte au Mali a eu un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, un entretien qui s'est déroulé après la réception de nouveaux équipements militaires de la part de la Russie. Il y a 10 ans, le 10 août 2012, décédait Mouloud Aounit, président du MRAP entre 2004 et 2008, un militant antiraciste qui a marqué sa génération. Un autre militant associatif se souvient, Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges.
Mouloud Aounit, c'est quelqu'un de notre génération qui a démarré effectivement un des combats les plus importants dans la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme, mais plusieurs autres combats dans les combats pour l'Afrique du Sud, contre l'apartheid à l'époque, Nelson Mandela. C'est un homme d'une dimension à la fois nationale, mais aussi internationale. Il avait mené plusieurs combats, il ne supportait pas la hogra. Voilà, Mouloud Aounit, pour le caractériser, c'est ça. C'est que les injustices, il ne les supportait pas et il était debout tout le temps pour ça. Donc il a mené plusieurs combats pour la dignité, y compris en, par exemple, pour des opposants iraniens, par exemple. C'était vraiment dans le monde entier, là où il y avait de l'arbitraire, eh bien, il se levait et il disait « ça suffit ».
Et donc parmi ces combats, il y avait la Palestine, la reconnaissance aussi de l'histoire de la guerre d'Algérie.
Absolument. La Palestine, il l'avait chevillée au cœur. C'était quelque chose de vraiment important. Il avait mené plusieurs combats avec d'autres, dans des collectifs, etc. Sa voix venait toujours pour la justice, pour l'égalité. Évidemment, toute l'histoire coloniale, et notamment singulièrement l'Algérie, le 17 octobre 1961, qui était un moment important pour lui dans la reconnaissance des crimes coloniaux d'une manière générale, effectivement, il a contribué d'une certaine manière à la connaissance. Moi, quand je rencontre plein de jeunes sur le terrain, y compris des gens qui ont aujourd'hui même 40 ans, et ils me disent, eh bien, c'est grâce à la voix de Mouloud Aounit qu'on a pris conscience de ce qu'était le 17 octobre 1961. C'est grâce à la voix de Mouloud qu'on a compris l'injustice qui était faite aux Palestiniens. C'est grâce à la voix de Mouloud que le racisme est devenu insupportable et qu'il incarne effectivement la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme avec cette voix merveilleuse, vraiment étincelante, rayonnante, très forte et très puissante, qui nous manque énormément aujourd'hui. Je crois que Mouloud Aounit, aujourd'hui, il aurait sa place dans ces combats d'aujourd'hui où la parole raciste est décomplexée de partout, chez les responsables politiques, mais aussi dans les médias, un peu partout où on laisse passer des choses. Eh bien, Mouloud Aounit était un homme qui ne laissait pas passer l'injustice.
Mouloud Aounit, qui a été le président du MRAP, un président très emblématique, et qui a lutté contre tous les racismes.
Oui, absolument. Mouloud Aounit était président du MRAP. D'ailleurs, il lui a donné un rayonnement incroyable à cette organisation. Jamais le MRAP n'avait bénéficié d'un rayonnement aussi important qu'avec la voix de Mouloud Aounit. Et Mouloud Aounit avait mené plusieurs combats, donc la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le racisme, mais aussi la lutte contre l'islamophobie. Et malheureusement, certains lui ont reproché ça, alors comme si il était interdit de mener des combats contre l'islamophobie. ça s'est traduit de manière vraiment injuste. Et aujourd'hui, bah voilà, on voit bien qu'il a eu raison de mener ce combat, puisque l'islamophobie est quelque chose qui a sa traduction mortelle, puisque des femmes se font agresser parce qu'elles portent un voile. Il y a des choses terribles aujourd'hui, et on voit le combat violent aujourd'hui qui est mené par certains. Et donc la voix de Mouloud a compté dans le passé, compte aujourd'hui encore, puisqu'il est, je dirais, qu'il incarne une mémoire de combat, une mémoire collective de combat, une mémoire importante des Français héritiers de l'immigration coloniale.
Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges, sa nouvelle pièce de théâtre Hakima, 5 juillet 1962, je me souviens, est programmée les 16 et 17 octobre à Stein, en Seine-Saint-Denis. Toujours en France, la canicule se poursuit avec le placement du Morbihan et du Finistère en vigilance orange. 18 départements sont concernés par ce pic de chaleur. Une trentaine de départements ont été placés aussi en vigilance jaune, notamment Paris, les Yvelines, la Seine-et-Marne, l'Essonne, le Nord et l'Isère. Dans le sud-ouest, les températures maximales peuvent atteindre 40 degrés localement. Dans le même temps, la France fait face à plusieurs incendies, notamment en Gironde. Gérald Darmanin a lancé un appel solennel aux employeurs pour qu'ils libèrent leurs salariés, qui sont des sapeurs-pompiers volontaires. Ceci pour qu'ils puissent rejoindre leurs collègues sapeurs-pompiers partout sur le territoire national. Plusieurs pays européens ont décidé de venir en aide à la France pour lutter contre ces incendies. Cette édition est terminée, je vous retrouve à 15h pour le Flash, à 17h30 pour le journal. Excellente journée à l'écoute de Radio Orient.